Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Élise Bucet?
Italie. ouais, ça m'évoque de la bruschetta.
Ah, on peut en mettre dessus.
La bruschetta, ouais. Ah ouais, moi j'adore ça.
Du basilic nain.
Ouais, j'ai goûté ça en Toscane, au bord d'une piscine. Vraiment, c'était le moment idéal. Petite tartine de pain grillé, des tomates coupées, de préférence bio évidemment, un filet d'huile d'olive. Si vous voulez rajouter un petit peu de mozza, vous avez le droit, mais normalement il y en a pas, je crois. De l'ail, le pain croûte, enfin normalement, hein, le pain grillé avec un peu d'ail dessus, et puis ça, du basilic et hop, c'est parfait.
Mamma mia.
Génial.
Europe 1. 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche les amis, allez-y, installez-vous. Ce dimanche, nous recevons une des journalistes préférées des Français. Pugnace, elle est cash dans ses questions, elle devrait être cash dans ses coups de fourchette, j'espère.
Oui.
Élise Bucet avec nous jusqu'à midi et demi. Bonjour Élise.
Bonjour, bonjour à tous.
Ravi de vous recevoir. Je sais que la table fait partie de vos plaisirs préférés.
Ah oui, moi c'est un truc familial en fait. Ma grand-mère cuisinait très bien, maman cuisine très bien, ma sœur cuisine très bien, j'espère cuisiner à peu près correctement. Et ma fille qui a 14 ans est en train de prendre la relève, elle se met en cuisine régulièrement. C'est un truc familial, c'est un des plus beaux plaisirs de la vie.
Ah, il y a une belle transmission.
Avec
alors.
La famille, avec les amis, oula, et l'apérol qui arrive sur le... Enfin, pas l'apérol.
Le spritz.
Le spritz.
Mais oui, mais il peut être fait à l'apérol. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous aimez la cuisine italienne?
Oui, ah. Vraiment.
Eh ben, ça tombe
qui bien. Ne peut pas aimer la cuisine italienne?
C'est vrai, hein, elle est réjouissante, généreuse. Et aujourd'hui, pour nous régaler, Denis Imbrosi, un de ses meilleurs ambassadeurs dans la capitale. C'est le chef du restaurant Ida de Malraux. Il est avec nous et il va nous régaler. Bonjour Denis.
Bonjour ragazzi. Ah. Buona domenica.
Voilà. Ça fait du bien en novembre, un petit accent comme ça.
On y est, c'est bon.
On y est tout de suite. Et un autre amoureux de la cuisine italienne va nous rejoindre. L'humoriste Raphaël Mesrahi sera des nôtres. Un concurrent intervieweur, attention.
Hein. Ah, il est sacrément bon. Hein.
Et Emmanuel Rubin, docteur es gastronomie, sera des nôtres. Alors dites-nous tout, tiens, Denis Imbrosi, qu'est-ce que vous avez eu envie de nous préparer aujourd'hui pour faire ripaille avec Élise Lucet?
Alors, un petit spritz pour commencer, bien sûr, comme ça on rafraîchit les papilles.
C'est vrai.
On va ensuite...
on flatte les joues, comme disait Jean-Pierre.
Ensuite, on va faire un arancini avec une petite mayonnaise citronnée et on va réaliser des pâtes fraîches cacio e pepe pour ce midi.
Cacio.
Cacio e pepe, c'est fromage et poivre.
Ça va être
normalement,
bien, ça.
C'est fait avec du pecorino romano.
Oui, fromage de brebis.
Aujourd'hui, je vais faire grana padano et pecorino, les deux ensemble pour équilibrer un peu les saveurs.
Ah, et vous allez nous expliquer, les auditeurs pourront refaire cette recette ce week-end parce qu'elle est aussi simple qu'exigeante, hein, cette recette, pour pas que la sauce soit grumeleuse et qu'elle enrobe bien les pâtes. Il y a un petit tour de main que vous nous expliquerez, Denis Imbrosi.
Tout à fait.
Vous êtes originaire de quelle région?
Calabre,
en Italie?
Calabre, le sud d'Italie. La Calabre, c'est moi la pointe de la botte. C'est une région assez sauvage encore aujourd'hui. Hein. Et j'ai grandi sous les lacs des Gardes, Mantova. Donc j'ai des origines du sud et du nord. Donc la maman qui fait les pâtes, qui fait les poissons, qui fait la caponata un peu à l'ancienne. Mais en même temps aussi cette cuisine du nord, un peu plus gourmande, un peu plus riche, avec du beurre et de la crème, comme on aime aussi, bien sûr.
Vous aimez cuisiner le dimanche, Élise Lucet?
Ah, mais j'adore ça, moi, j'adore, dès que je peux. Je vais même vous faire une confidence, en fait. Il m'arrive de rentrer le soir après une journée de boulot de dingue et de m'attaquer à un soufflé, aux pleurotes et à l'estragon, et de faire ça juste pour ma fille et moi, parce que moi, je pense qu'il faut se soigner dans la vie.
Et bien sûr.
Et donc, quand on se fait de la cuisine, c'est un moment qu'on s'accorde à soi-même. Et c'est toujours un bon moment, même quand c'est le mardi soir, même quand c'est le dimanche midi, n'importe quand, la cuisine est toujours bienvenue.
Et quel que soit le temps qu'on lui consacre, un petit peu de temps, mais on est dans sa bulle, comme vous dites, ça fait du bien, c'est valorisant, ça donne confiance en soi aussi, la cuisine, quand on a un petit coup de mou.
Ouais, ça donne confiance en soi, et puis c'est comme une récompense. Moi, je prends ça vraiment comme une récompense, c'est-à-dire cuisiner quelque chose qu'on aime, pour des gens qu'on aime, et ensuite le déguster ensemble, c'est la récré.
Qu'est-ce que vous faites le dimanche en général? C'est quoi le programme?
Oh, alors, plein de choses différentes. Ça, moi, j'adore le poisson. Donc, il y a beaucoup de poissons, des légumes. Là, par exemple, avec ma fille, on a fait une petite macédoine de légumes avec des manchetous, des petites carottes bio, des petits pois, des échalotes, du thym, du romarin et du laurier du jardin. Rien que ça, c'est juste super. Parce qu'à un moment, on est sur des légumes frais, des légumes qu'on trouve en ce moment, qu'on peut encore trouver en ce moment, et on se régale. Et on a fait du poisson avec, et on a fait plein d'autres choses. Mais je ne suis pas très dessert.
Vous débranchez l'actualité le dimanche ou vous restez en prise? avec la
Non, je reste en prise. J'écoute la radio, en fait. Moi, je suis très fan de la radio. Ça vous va bien, hein, puisqu'on est sur Europe 1. Et c'est un média que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup moins la télé. Je rebranche avec la télé le dimanche soir à 20h ou peut-être un peu avant en regardant ces politiques sur France 5. Mais sinon, je lis les journaux. Mais en fait, moi, j'ai pas l'impression de brancher ou débrancher parce que l'actu, ça me passionne. Je me force pas, j'ai pas l'impression de travailler en fait.
On en parlera tout à l'heure avec Cache Investigation, avec un envoyé spécial qui arrive bientôt, jeudi prochain. On parlera du programme. Qu'est-ce que vous faites, vous, le dimanche, Denis Ambrosi, en famille ou dans les restaurants? Parce que vous avez plusieurs restaurants dans Paris, Malraux, Ida.
C'est les dimanches pour les Italiens, c'est sacré, c'est toujours en famille. Désolé, mais.
Et qu'est-ce que vous faites à manger à votre famille, tiens, le dimanche?
Alors, nous, on adore les lasagnes aux artichauts, en ce moment, on les fait, hein. On a les artichauts mamola qui viennent d'Italie, qui sont extraordinaires. Soit on les fait frits, donc l'artichaut frit à la juive par exemple. Soit on les adopte aussi à la lasagne avec un peu des jambons cuits.
Moi je veux la recette. Je veux la recette.
J'imagine. Artichaut à la juive, donnez-nous la recette. Artichaut, c'est vrai que c'est délicieux. Alors, ça.
Nous on fait une technique un peu française, c'est les pommes soufflées qu'on les cuit dans deux bains d'huile chaude. Et on fait pareil pour les artichauts frits à la juive, comme ça ils sont moins imbibés d'huile. Donc une première friture à 140 degrés pour pouvoir cuire un peu à cœur l'artichaut. Et une deuxième cuisson à 180 degrés. Donc on a vraiment les feuilles d'artichaut, on dirait presque une rose des sables.
Oui, comme un petit éventail. Oui.
Un petit éventail. Les feuilles croustillantes, les cœurs bien tendres au milieu, salé, poivré, petite vierge salmorillo, donc persil, ail, vin blanc, huile d'olive extra vierge, un peu de citron.
Ben voilà, vous l'avez, la recette, tu sais. Et une
première. Non, mais je veux aussi la recette des lasagnes.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà en cuisine autour d'Élise Lucet avec la cuisine italienne de Denis Ambrosi. Le plan de travail est dressé, bien occupé par Denis, et à côté une salle à manger dans laquelle nous passerons tout à l'heure. On n'est pas en studio, hein. C'est comme un petit restaurant, comme une petite maisonnette.
Beaucoup mieux, hein, je préfère moi.
On est pas mal. Hein.
Ah, oui.
Élise Lucet, les Français vous connaissent depuis quelques années maintenant. Comment ça a commencé cette histoire entre vous et le journalisme ?
En fait, ça a commencé par un stage à Radio France à Caen. J'avais à peine 20 ans. Je venais vraiment d'avoir 20 ans. Et je me cherchais un petit peu. Alors, il paraît que j'avais dit à ma maman, quand j'avais 14 ans, que je voulais remplacer Christine Ockrent. Je n'en ai aucun souvenir.
C'est ce qui se dit, oui.
Mais comme ma maman ne me ment jamais, je pense qu'elle a raison. Et je pense en fait que je voulais lui dire ça parce qu'elle était extrêmement admirative de Christine Ockrent et que je me disais, oh, si un jour j'arrive à voir dans ses yeux ce regard qu'elle a pour Christine Ockrent, mais pour moi, ce sera formidable. Et je pense que je l'ai eu à plusieurs reprises. Donc ça a commencé à Caen. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, mais ce métier est juste formidable. C'est ce que je veux faire de ma vie. J'ai eu du bol, je suis tombée sur des gens super, des jeunes qui avaient 30-35 ans à l'époque, Francis Gauguin notamment, qui m'a vraiment appris mon métier, mais d'autres aussi. Et voilà, et tout de suite, je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, avec ce métier.
C'est ça. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Christine Ockrent, à l'époque?
C'était la première femme à présenter. Christine Ockrent, Anne Sinclair, c'était des monuments. On regardait ça religieusement en se disant, Christine Ockrent, le 20h, waouh, Anne Sinclair, 7 sur 7, waouh. Grande admiration, grande admiration. Et puis oui, c'était les premières femmes qui s'imposaient à la télé, pas comme speakerine, pas pour faire la météo, pas pour faire des trucs comme ça. Elles étaient journalistes et elles posaient là leur savoir, leurs questions, elles y allaient.
Et elles ne lâchaient pas effectivement l'affaire, comme on dit.
Pas du tout.
Il fallait aller dans les retranchements du questionnement, elles étaient présentes.
Ouais, puis on l'a oublié, mais Christine Ockrent allait aussi aller faire des émissions sur le terrain. Moi, j'en ai revu là dernièrement et ça m'a fait marrer parce qu'il y a vraiment des moments où je la voyais interviewer le maire d'une ville de banlieue, j'ai l'impression de me revoir, moi, 20 ou 25 ans après, ouais, donc super.
Alors, on pense souvent que derrière les figures du journalisme, il y a de bons élèves. C'était pas forcément votre
non,
cas.
Non, parce qu'en fait, moi, je me suis ennuyée à l'école. Je le dis franchement, pas de bol, j'avais une mère directrice d'école et un père prof de fac, donc ma sœur qui a suivi de brillantes études. Mais moi, très vite, je me suis ennuyée parce que les gens qui vous disent à vous, enfants, ou qui disent à tous les enfants, apprends ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, sans prendre le temps de leur expliquer, sans prendre le temps de la démarche intellectuelle pour comprendre, ça sert à rien.
Sans qu'on comprenne pourquoi, en
Mais
fait.
Non,
c'est ça qui est agaçant.
Ça sert à rien. Donc, du coup, cette école un peu rigide, c'était pas fait pour moi.
Alors, aujourd'hui, pas de rigidité. C'est le soleil de la Méditerranée, grâce à Denis Ambrosi, avec une belle cuisine au soleil. Vous avez sorti un très beau livre, Denis, d'ailleurs. Une table au soleil, mangée en Méditerranée, hein, qui est un livre sur la belle cuisine italienne, entre autres. Alors, avant de déguster les arancini que vous avez cuisinés pour nous, un petit mot sur les lasagnes dont parlait tout à l'heure Élise Lucet,
oui.
Alors. Les lasagnes, elle veut la recette des lasagnes aux légumes, c'est ça?
Exactement. Non, artichaut et
artichaut et jambon. On peut le faire aussi complètement artichaut et champignons, c'est possible également.
Ah, hein. Pas mal.
Donc si on veut faire complètement végétarien, et en plus, il faudrait manger des moins en moins de viande, c'est
bien
conseillé,
sûr.
Bien sûr.
De meilleure qualité, mais moins souvent.
Mais moins souvent. Et non, c'est une recette qui maman fait depuis toujours. Donc elle fait la pâte fraîche qu'on va faire nous aussi, nous-mêmes. Et une fois qu'on a notre pâte fraîche, elle la blanchit pas, en fait. Elle la met à cru dans la plaque, uh-huh. avec la bachamel, avec la sauce tomate, si on veut, et les autres sauces. Et en fait, quand elle passera au four, c'est cette sauce-là qui va cuire la pâte pendant 30 minutes. Et c'est là qu'on va avoir une bonne texture. Et il faut toujours que la première couche soit croustillante. Ça, c'est signe d'une bonne lasagne.
C'est la règle. Ah, bah, ça, c'est bien. Ça nous plaît, ça.
Et du coup, attendez, moi, je veux la recette vraiment. Oui. Avec les artichauts et jambon, vous mettez béchamel plutôt.
Béchamel, plutôt. Oui. Béchamel, noix de muscade, poivre sauvage, un bon poivre noir qui est... un fait d'huile d'olive, grana padano râpé, on peut mettre du pecorino, on peut aussi utiliser de la scamorza fumée par exemple.
Mais artichaut cru ou...
C'est ça que
les artichauts. Soit vous prenez les artichauts un peu sous huile, donc ils sont déjà cuits, soit vous nettoyez vos propres artichauts et vous les faites sauter à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, d'accord. ail, une branche d'étain.
Avec les feuilles, sans les feuilles ou juste les cœurs?
Non, juste les cœurs. Ah. Il faut toujours effeuiller l'artichaut.
Et la béchamel continuera de les cuire au four avec son humidité. Elle va conduire la chaleur.
Je sens que ça va me plaire, ça.
Et ça devrait vous plaire aussi parce que ça, c'est magnifique. J'explique à nos auditeurs, on a une assiette avec quatre jolies boules croustillantes et ce sont des arancini.
Les arancini. Si. Ça, c'est typique sicilien. C'est du riz qui est cuit avec... aujourd'hui, on peut les détourner de plusieurs façons. On peut les faire aussi à la truffe, par exemple. On peut les faire avec d'autres légumes. Là, c'est à la bolognaise. Donc, il y a de la viande dedans, de la sauce tomate. C'est les classiques, les vrais. Et ensuite, au fond, j'ai fait une petite condiment moutardé avec un pot d'huile de l'extrait d'olive, du basilic res, zeste des citrons. Donc, les citrons rafraîchis un petit peu. C'est plat qui est typiquement assez lourd parce qu'elle est frite quand même, mais tellement gourmand. N'est-ce pas?
Ah, et puis la friture est parfaite parce que c'est croustillant.
Voilà, ça, c'est bon, ça.
Ça, c'est une vraie recette de la cuisine des mamas en Italie, Denis Ambrosi, parce que ça permet de recycler les restes aussi, les arancini. Hein.
C'est la cucina povera. Tu as tout à fait raison. C'est la récupération du riz de la veille.
Wow.
Et on le farcit dedans. On met de la mozzarella, on met de la sauce tomate, on met plein d'autres ingrédients. C'est qui nous
et
reste
Laurent,
un peu du frigo.
Il faut aller piocher dans
fait. Avec cette petite sauce à la moutarde, justement.
Voilà.
C'est délicieux, Denis Ambrosi.
Merci beaucoup.
Vous parliez de votre papa et de votre maman tout à l'heure, Élise Lucet, une maman directrice d'école, un papa professeur de fac, mais artiste aussi.
Oui.
Connu sous le nom de Zeb, 40 ans de chansons, qui a travaillé avec les musiciens de Brel, de Brassens.
Il a travaillé avec Pierre Nicolas. Et du coup, il y avait une ambiance assez sympa à la maison, parce que papa était, comme on dit, à l'époque, on disait auteur-compositeur-interprète, mais ça veut vraiment dire quelque chose. Il écrivait ses chansons, il faisait des concerts, il enregistrait ses disques. Donc il y avait une chouette ambiance à la maison parce qu'il y avait souvent des musiciens, des copains qui arrivaient, enfin c'est hop la guitare qui sortait, c'était parti. Donc c'était assez joyeux et maman qui faisait des repas pour tout le monde, délicieux, donc évidemment tout le monde avait envie de revenir et c'était assez formidable, c'était une enfance très joyeuse.
Qu'est-ce qu'on mangeait à table? Vous avez été élevé en Normandie?
Alors écoutez, je vais vous dire très franchement, c'est un mélange un petit peu comme pour Denis d'ailleurs de tradition et de modernité parce que du coup, il y avait effectivement le beurre, la crème en Normandie, c'est normal. Les fruits de mer, les poissons, on est juste à côté de la mer, donc on en mange plein. Mon papa faisait un potager, et donc on avait les légumes du jardin. Et ma mère, très très, mais vraiment, je pense qu'elle était précurseur, elle a commencé à manger du bio et à nous faire manger du bio. Moi, j'avais 5 ans.
Donc, mais dans nos campagnes en France, ça parle à plein de gens, à plein de familles qui avaient leur potager. Que c'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la pro sans le savoir. On faisait du bio sans le savoir.
Exactement.
Puisqu'on ne traitait pas et on avait son potager.
Exactement. Et donc on faisait ça avec la purée d'ortie. On faisait attention. On mettait le fil avec du goudron autour des trucs pour pas qu'il y ait les escargots qui passent. Des choses très faciles. Et moi, j'ai toujours, du coup, été, je pense, très très bien nourrie au sens où on mangeait des choses saines. Et puis maman, elle faisait plein d'expériences, c'est-à-dire qu'elle avait plein de livres de recettes, elle en a toujours plein, et elle allait piquer un peu d'oriental, un peu d'asiatique, un peu de machin, faisait des couscous géants.
Cuisine fusion.
Oui, et voilà, elle s'amusait en fait en faisant de la cuisine, et donc du coup, on se régalait en la mangeant.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi autour d'Élise Lucet à la table du dimanche. On va parler de votre émission envoyée spéciale de jeudi prochain, le 25 novembre. Élise, nous sommes en cuisine avec Denis Imbroisi. Alors, il nous a régalé avec des arancini. On l'a dit, un reste de bolognaise avec un reste de riz et ça devient tout de suite un plat festif pour ouvrir le bal. Et qu'est-ce que vous allez nous faire en plat aujourd'hui, Denis? Alors, sachant que nous avons Raphaël Mesraï qui va nous rejoindre et qui est végétarien.
Parfait. Ah. C'est bien dit. On va faire les cacio e pepe. Ah. Donc, des tagliatelles des pâtes fraîches. Donc, j'ai ici ma farine en plus. Je vais les commencer à les faire maintenant. Donc, pour la recette est facile. Hein. Pour 100 grammes de farine, on peut utiliser la farine 00 ou la farine T45. Il faut un œuf entier. Donc, ici, j'ai 400 grammes de pâtes, 4 œufs parce qu'on est plusieurs à table. Une bonne portion de pasta, c'est 100 grammes normalement.
OK.
Voilà, vous allez faire la pâte vous-même, là, et ça veut dire.
C'est normal. Oui.
Avec de l'aminoir, il est venu avec son aminoir.
Alors moi, ça, je ne sais pas faire et j'ai très envie d'apprendre. Donc, je regarde avec vraiment beaucoup d'attention, parce que je trouve ça génial de faire sa pâte.
Pâte fraîche, mais on peut faire cette recette avec des pâtes sèches à la semoule de blé dur. Hein.
Bien sûr.
Et Denis, on n'a pas besoin de laisser reposer la pâte?
Alors, normalement, oui. Ça dépend comment on la travaille. Je préfère donner autant de temps de travail sur une pâte, mais un peu comme sur une cuisson d'une viande, par exemple, autant de temps de repos. C'est toujours bien laisser reposer tout ça parce que ça permet vraiment d'avoir une texture qui soit parfaite. Ouais. Et après, il faut choisir toujours la bonne farine. Hein.
Donc, il y a un incontournable aussi dans vos restaurants, Denis Imbroisi. On le retrouve dans votre livre, là, Une table au soleil. Ce sont les pâtes carbonara. Un petit mot pour nos auditeurs qui voudraient faire des carbonara ce week-end, par exemple. Les trois commandements de la carbo. Hein, parce qu'il y a eu un carbonaguette, on s'en souvient, il y a quelques années, hein, avec les Français qui mettent de la crème et il n'y a pas de crème dans la carbo.
Ah ben c'est criminel, hein, quelqu'un qui met de la crème dans une carbonara, il faut l'arrêter direct.
Même pour une Normande interdite.
Oui, c'est vrai, même pour la Normande, vous n'avez pas le droit.
Et pas de lardon non plus, attention.
Non,
il faut utiliser du guanciale, et c'est la base du cochon. C'est ça qui permet vraiment d'avoir la meilleure matière grasse pour réaliser les carbonara.
Je trouve ça où, moi?
Ben, les guanciale, épicerie italienne.
Oui, exactement. Voilà. Traiteur italien.
Aujourd'hui, vraiment, à Paris, on trouve vraiment tout. C'est ça qui est bien.
Mais dans nos régions aussi, hein, il y a des traiteurs italiens partout maintenant.
Ah ben, c'est important d'avoir les bons ingrédients pour faire cette recette. Du pecorino romano. Moi, j'utilise toujours du grana padano pour équilibrer, en fait, cette saveur qui est assez puissante, un petit peu salée parfois. Et c'est surtout aussi la quantité des poivres qu'il faut mettre. Il en faut mettre beaucoup.
Et oui, parce que ça vient de là, les carbonara. Ça vient du poivre. C'était le plat des charbonniers et ils mettaient beaucoup de poivre. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça. Ça veut dire charbonnier en italien.
Charbonnier, oui. Alors, il y a plusieurs histoires. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment. C'est-à-dire qu'en Latium, les messieurs partaient travailler dans les mines des charbons et les mamans préparer un plat qui soit riche, donc à base d'œufs, à base de guanciale et tout ça, pour qu'ils affrontent la journée très facilement. Et aussi, ça rappelle un peu le charbon, donc les poivres qui doivent couvrir les pâtes.
Et des jaunes d'œufs, hein, bien entendu.
Et les jaunes d'œufs, bien sûr.
Pour la liaison. Alors, il y a des règles pour la carbo, Élise Lucet. Est-ce qu'il y a des règles pour être une bonne journaliste? Quelles sont les règles avec lesquelles vous ne dérogez pas?
Ah oui, il y en a, et puis il y en a plein. Et d'abord, franchement, je pense que quand on est journaliste, il faut avoir un vrai sens de la responsabilité. On a la chance de pouvoir parler à des millions de personnes quand on travaille à France Télévisions ou quand on travaille à Radio France ou quand on écrit dans le Figaro comme Emmanuel ou dans d'autres journaux ou sur des sites maintenant. Donc, il faut avoir beaucoup de respect pour les gens qui vous lisent. Ça veut dire beaucoup de boulot. D'abord, il faut travailler. Il faut être extrêmement rigoureux. Il ne faut jamais, mais c'est un peu comme en cuisine, hein, il ne faut jamais lâcher sur la rigueur, sur la manière dont on doit faire les choses, les vérifications. Mais vraiment, c'est hyper important.
C'est ce qui manque un peu, peut-être, parfois, en ce moment, au journalisme, quand on se contente de répéter des choses.
Oui, quand on va très, très vite, quand on veut remplir une antenne. Et donc, faire du journalisme, ce n'est pas remplir une antenne. L'info, ce n'est pas un robinet dans lequel on met de l'eau tiède. À un moment, il faut travailler. Et il n'y a que la valeur du travail qui se voit à l'antenne. Après, je pense qu'il faut aussi, objectivement, être curieux et amoureux des gens. C'est hyper important quand on est journaliste d'être en empathie aussi avec les gens, de les écouter, de savoir écouter. Il y a beaucoup de journalistes au départ qui pensent qu'il faut savoir poser des questions. Et ben moi, je dis qu'il faut savoir écouter les réponses. C'est plus important, en fait. Et ça, souvent, moi, quand je regarde des choses à l'antenne, je me dis, mais écoute ce qu'on te dit. Rebondis, écoute, empare-toi de ce que t'a dit ton interlocuteur pour rebondir et reformuler ta question différemment, pour aller chercher. Même parfois, l'interlocuteur vous emmène complètement ailleurs. Donc, il faut savoir vraiment bosser son interview pour savoir où on veut aller soi-même, mais il faut vraiment écouter l'autre et être capable de prendre des chemins de traverse et vraiment aller là où il vous emmène aussi. C'est très important.
Alors, je vais essayer de vous embarquer justement sur le mot cache. Tiens, quand on évoque votre nom, on pense au mot cache avec cette manière d'aller directement poser vos questions. Vous avez marqué les esprits. On peut même dire que maintenant, les patrons, beaucoup de patrons ont peur de vous.
Oui, c'est pas le but en fait. Le but, c'est pas qu'ils aient peur, parce que en fait, très franchement, un bon journaliste, il est en face de vous. Je sais pas s'il faut avoir peur. Si à la limite, votre entreprise va bien, vous faites bien le job, vous vérifiez bien tout ce qui se passe dans votre entreprise, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et c'est pas notre volonté première. Emmanuel Gagné, Sophie Le Gall et moi, qui donc les deux Red Chef et moi de Cash, ce qu'on veut, c'est informer au mieux les Français, et on fait le pari que n'importe qui est capable de comprendre, y compris un dossier très compliqué d'évasion fiscale, de problèmes sociaux dans une entreprise, de problèmes de médicaux dans un laboratoire pharmaceutique. Si on leur explique bien, ils sont capables de tout comprendre. Mais nous, on a le devoir d'investiguer, d'aller chercher derrière les beaux discours de communication et de sortir de vraies enquêtes, parce qu'on est payé par la redevance, c'est-à-dire par les gens qui nous regardent, pour faire ce job-là. Et ce job-là est rien d'autre. On ne se prend pas pour des magistrats, on ne se prend pas pour des juges d'instruction, on ne se prend pas pour des hommes politiques, on sait où on est journaliste, et on essaie d'être fiers de l'être.
Même règle pour envoyé spécial, hein. Je le disais, il y a un envoyé spécial, un nouveau qui arrive jeudi prochain, le 25 novembre. Des sujets différents, dont un sujet très dur, une vie sous la menace. Vous allez parler des violences conjugales.
Oui, parce que si vous voulez envoyé spécial, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on peut faire vraiment des sujets d'enquête et de témoignages très forts, comme ce sujet sur, effectivement, des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, qui essaient d'échapper à leur bourreau et qui, pour le coup, ont du mal à se faire entendre des autorités, à se faire protéger. Donc c'est un sujet d'Alice Gauvin. Voilà, il y a ça. Mais il y a aussi du grand reportage dans Envoyé spécial. Il y a aussi, par exemple, là, prochainement, on va faire un super reportage sur Jean-Martin Fortier, que vous connaissez peut-être, qui est un maraîcher québécois, qui a inventé un mode de culture qui va vraiment vous intéresser. En un seul hectare, il a un mode de culture hyper, hyper organisé. Tout est organisé. Le mode de culture, la récolte, et évidemment zéro pesticide,
la rotation des cultures,
rien, comment elles cohabitent ensemble, etc. Résultat, sur un hectare, il arrive à produire tellement bien que là, par exemple, dans la Sarthe, il y a 6 personnes qui vivent sur un hectare de culture. Donc c'est du bio intensif, mais ultra vraiment réfléchi, tout est réfléchi, la place des outils, là où est la cuve à eau, comment on va faire les bottes de betterave ou de... Voilà, tout est réfléchi et ça marche super bien, parce que ça marche bien, c'est bon, c'est beau, mais ça rapporte de l'argent aux gens et ils en vivent.
C'est vertueux dans les deux sens du terme. Je vous présente notre envoyé spécial dans les restaurants. C'est Emmanuel Rubin, que vous pourrez lire dans le Figaro également.
Ah, moi, je l'ai lu souvent, Emmanuel. Hein.
Ah, c'est gentil. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, bonjour.
Alors, envoyé spécial dans les restaurants, vous allez nous parler d'un homme politique dont tout le monde se réclame en ce moment et qui a un rapport aussi avec la table. C'est le général.
C'est le général de Gaulle. Alors, vous avez sûrement remarqué qu'en prétexte à cette élection présidentielle, si de Gaulle est un gâteau, son héritage du moins, alors tout le monde a une grosse part. Il n'y a pas de raison. On va parler de Gaulle à table. Nous, on aura les miettes, mais vous allez voir quelles miettes.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Élise Lucet est avec nous à table. Tout se passe bien, Élise?
Ah, c'est formidable. Mais vraiment, quel beau dimanche midi. Hein. C'est génial.
Eh bien, Denis Ambrosi cuisine l'Italie pour nous. Et il nous fait des pâtes fraîches qu'il va cuisiner façon cacio et pépé avec du fromage et du poivre. L'humoriste Raphaël Mesrahi nous rejoint bientôt. Le métier de journaliste change, Élise Lucet. Vous êtes cliente des reportages, des interviews qu'on voit se développer sur les médias digitaux. Je pense à Brut, je pense à Combini, par exemple.
Complètement. Moi, d'abord, je regarde tout parce que tout m'intéresse. Il y a plein de choses à apprendre. Et effectivement, je regarde beaucoup Brut et Combini. Ils ont apporté quelque chose de nouveau, je trouve justement Brut, retour à l'interview pure et simple, sans chichi, sans truc autour.
Les questions claires et précises, comme vous disiez
tout
à l'heure.
Oui, et puis c'est des formats qu'on peut regarder partout, c'est-à-dire qu'on est quand même tous nomades, hein, on est en train de se balader parfois à pied dans le métro, dans la voiture, dans le train, etc. Et on peut regarder un format court. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ça vous amène vers des formats plus longs aussi. Ça vous permet de découvrir quelqu'un en 8 minutes et de dire « Tiens, il m'intéresse, lui, j'ai envie de regarder un truc plus long. » Du coup, vous basculez sur un doc qui va être sur France Télévisions, sur Arte ou sur autre chose, ou vous allez lire un bouquin. Et ça, c'est formidable.
Mais comme vous dites, on est nomade, notre façon de consommer l'image a changé. Il y a les tablettes, il y a les téléphones. Quel avenir vous voyez pour la télévision?
C'est vraiment de plus en plus de la télévision à la demande. C'est-à-dire que les gens vont fabriquer leur propre programme. Moi, je pense que la télévision en linéaire, elle va continuer à exister. Mais en fait, ce qui est formidable, c'est l'indépendance qu'on a gagnée en tant que téléspectateur vis-à-vis des programmes. Moi, j'ai envie de regarder une émission d'histoire à 10h du matin, j'ai le droit. Et puis les dessins animés pour les enfants ou les émissions où ils découvrent la nature, etc. S'ils sont levés à 6h du mat et que vous avez envie de vous rendormir sur le canapé,
ah, oui.
Vous avez le droit aussi.
Ça parle aux parents, ça.
Pas trop jeune. Hein,
ça parle aux parents.
Mais voilà.
On va passer à la salle à manger. On va quitter notre plan de travail avec Denis Ambrosi qui reste au plan de travail. Qu'est-ce que vous faites là, Denis ? Qu'est-ce que c'est que cette recette là ?
Ben, ça, c'est une petite burrata d'épouille avec kaki, betterave jeune, basilic, huile extra vierge d'olive.
Oh là là.
C'est juste pour ouvrir un peu les papilles encore plus avant de manger les cacio e pepe.
Et alors, franchement, c'est dommage qu'on soit à la radio parce qu'on dirait un soleil.
Ah,
c'est
un
magnifique.
Vous la verrez
c'est
sur
d'Italie.
Europe1.fr. Et nous
beaucoup.
Allons retrouver à table, installez-vous, tiens. Élise, Emmanuel Rubin, qui est déjà à table. Hein.
Toujours. Moi.
Emmanuel est le cofondateur du Fooding. Et ce dimanche, vous nous l'avez dit avant la pause, vous invitez un personnage historique à notre table. Quelqu'un dont tout le monde se réclame en ce moment, c'est le général de Gaulle, qui avait un rapport intime, comme les Français, à la table.
Bah, tout à fait. Il avait compris que la table était aussi une vitrine de la France. Il avait une autre idée du pays, et il avait une autre idée de la gastronomie, mais pas véritablement pour lui. Alors, j'en parle parce qu'un livre vient de sortir. Je vais en parler dans quelques instants de ce livre parce que c'est un livre véritablement extraordinaire, un peu comme le personnage de Gaulle. Mais c'est vrai, quel mangeur était de Gaulle ? La question qu'on peut poser, eh bien, il n'était pas un baffreur, c'était pas non plus un fin gourmet, ni même un gastronome. Il faut un peu se rappeler son héritage familial, hein. C'est une certaine bourgeoisie française, puis après il a une carrière de militaire. Donc pour lui, la cuisine, elle est là pour remplir honnêtement un office. C'est celui de nourrir.
C'est ça, bah oui, surtout sur les, voilà, dans les champs de bataille, on savait qu'il fallait donner des forces aux militaires.
Exactement. Alors, c'est pas non plus un homme de restaurant. De Gaulle, il aime les plats simples, les plats bourgeois. Il aime à dire d'ailleurs que les plats francs du collier, où l'on voit ce que l'on mange, c'est ceux qu'il préfère. Alors, oui. La blanquette, la daube de bœuf, l'oreille de cochon grillé, le poulet rôti s'invite régulièrement à la Boissière. La Boissière, je le rappelle, hein, qui est le domicile de la famille de Gaulle.
En revanche, les choses changent lorsqu'en 58, il devient président de la République. Là, il n'a plus le même rapport à la nourriture.
Alors là, tout à fait. Lorsqu'il va être investi président, exactement, c'est en janvier 59, hein, là, il a un rapport qui change. Alors, pas dans le quotidien de l'Élysée, où Tante Yvonne, Madame de Gaulle, veille au grain, en bonne ménagère, finalement. Elle aussi, elle est dans l'intendance, elle suit tout. Ils payent tout. Il faut savoir qu'ils aimaient à dire qu'ils payaient leur loyer, leur électricité. Ouais. La cave de Gaulle était sa cave personnelle. Il aura l'élégance de la laisser lorsqu'il quittera l'Élysée. Mais quand on déjeune et dîne à l'Élysée et qu'il n'y a pas un rapport officiel, alors, ce sont des plats simples, des plats qui ressemblent au général, avec simplement une importance, être ponctuel. Il détestait que quelqu'un soit en retard.
Mais
ça, c'est très militaire, effectivement. Il rappelle, il est l'officier, donc il officie dans les messes. Hein. Les hommes de troupes n'ont pas le droit aux messes, les officiers ont le droit aux messes. Et là, il y a quand même une certaine rigueur. Il mange en 45 minutes, café compris, et encore une fois, pas de minute de retard.
Ce livre raconte que De Gaulle a compris que la gastronomie française était une belle vitrine pour parler aux autres pays.
Exactement. Alors ce livre, il s'appelle tout simplement De Gaulle à table. Il est publié aux éditions Dilecta. C'est vraiment un livre d'art, un livre de bibliophile, travaillé en coffret. 3 volumes à l'intérieur de ce coffret. Alors je vous passe le façonnage, le papier, l'impression, les reprographies. Et on doit ce livre à un collectionneur de menus. Il s'appelle Jean-Maurice Sacré. Il s'est amusé à collectionner tous les menus officiels, notamment des présidents. Donc il a une collection absolument richissime. Et c'est à travers cette collection de menus qu'on va raconter la vie quotidienne des repas à l'Élysée. Donc le livre est assez extraordinaire parce qu'on nous raconte De Gaulle par l'assiette. Et on s'aperçoit effectivement qu'il avait compris la force de la gastronomie comme outil diplomatique. Outil diplomatique aussi vitrine du pays. Et d'ailleurs, il y a un repas qui est resté célèbre, c'est le fameux repas des Kennedy. On est au printemps 61, dans la Galerie des Glaces à Versailles. Ouais. Les Kennedy sont invités. Repas avec service à la française. Et on dit, et c'est souvent vrai, que les Kennedy ont tellement été impressionnés et par le repas et par Versailles que par la suite, nombre d'investisseurs, de donateurs américains se sont attachés au château de Versailles, aujourd'hui encore, et on le doit un peu à De Gaulle.
Le pouvoir de la table. De Gaulle à table, ça s'appelle.
Alors, le livre coûte très cher, hein, 650 euros.
Hein,
mais attention, ils promettent un petit ouvrage, un ouvrage d'art.
Ah oui, non, mais oui, c'est un ouvrage d'art, d'accord.
Mais,
ah oui,
mais
je n'avais pas vu venir le prix.
D'ici l'année prochaine, d'en faire un expurgé aux éditions Perrin.
On va attendre la version poche.
Oui, voilà, c'est plus raisonnable.
On va attendre la version poche. Oui, c'est une œuvre d'art, d'accord. Mais en tout cas,
j'avais gardé le prix à la fin parce qu'autrement, vous n'auriez pas pris la chronique.
Merci de l'avoir lu.
Je suis pas sûr que Tante Yvonne l'aurait acheté à ce prix-là.
Oui, je crois pas. Merci de nous en avoir parlé, en tout cas, Emmanuel Rubin. Vous avez déjà déjeuné à l'Élysée, Élise Lucie?
Oui, et j'ai failli, de vous à moi, créer un incident diplomatique.
Ah
parce
bon
que c'était un déjeuner en tête-à-tête avec Bernadette Chirac. Et j'ai un énorme problème à table, c'est que je ne supporte pas de manger du melon.
Et il y avait du melon.
Et le problème, c'est qu'effectivement, le monsieur qui faisait le service est arrivé avec un melon jambon italien, j'imagine. Hein. J'étais tétanisée, en fait. J'ai vu arriver le truc, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas manger ça. C'est impossible, je ne vais pas y arriver. Et donc, en une seconde, je me suis inventé une allergie au melon.
Ah, bien joué.
Donc, il doit y avoir, dans le livre de l'Élysée, parce qu'il y a un livre, en fait, sur les allergies des possibles convives de l'Élysée, Élise Lucet allergique au melon. Je ne suis pas allergique véritablement, mais j'y suis allergique gustativement.
Ben,
c'est
pas
impossible.
Il n'y en a pas ce midi, de toute façon, c'est plus la saison.
Et alors,
du
j'ai
melon.
Un copain sommelier qui m'a dit qu'en fait, c'est parce qu'il y a de la térébenthine dans le melon.
Oui.
Il m'a dit, ça doit être ce truc que tu supportes
peut-être
pas. Et bizarrement, j'aime les mangues, où il y a de la térébenthine.
Ben voilà. On va enquêter.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà à table autour d'Élise Lucet avec la cuisine réjouissante et ensoleillée de Denis Imbrosi, une burrata avec du kaki, une belle huile d'olive vierge. What else, comme dirait l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez, Élise Lucet?
Moi, je me régale. Et j'avais une petite question pour Denis, en fait. Sa betterave, elle est crue?
Non, elle est cuite.
Ah,
la betterave est cuite.
Parce que je la trouve effectivement très onctueuse et moi, je la fais crue et là, je vois qu'elle est cuite.
Elle est cuite, oui. C'est beaucoup mieux. Alors, après, moi, j'aime bien les jeux crus et cuits.
Oui.
Ça, j'adore aussi. Mais je l'ai fait avec les kakis qui est resté. Ça apporte cette fraîcheur, cette,
super,
cette croquante. Voilà. Mais la betterave, elle est cuite au sel, tout à fait.
Et la burrata, elle est bien parce qu'elle n'est pas trop crémeuse.
Exactement.
Et elle est vraiment très bonne.
Elle a de la tenue tout autour et elle a ce cœur, effectivement, qui est crémeux et qui est onctueux. C'est ça qu'on aime dans la burrata.
Là-dessus. Il faudrait la sortir 2 heures avant du frigo parce qu'à la base, la mozzarella, la burrata, il ne faut jamais la mettre au frigo.
Bien sûr.
Et avant de la déguster, il faut quand même la sortir, il faut qu'elle soit à température ambiante. Et là, on a la bonne texture de la.
Il faut qu'elle se détende.
C'est exactement.
C'est, voilà, c'est le dimanche, il faut se détendre. C'est comme la burrata et la mozzarella.
on se détend bien là.
C'est ce qu'on fait, on y arrive bien. Et le plat du jour, on y revient, c'est les cacio e pepe qui sont en progression. Vous en êtes où alors?
Alors là, je suis en train d'étaler la pâte,
ouais,
la pâte fraîche. Et ensuite, la sauce, elle va être faite un peu minute. Donc avec les fromages, il faut faire attention à la température parce que c'est là où les cacio peuvent parfois devenir presque du plastique. Donc, il faut vraiment trouver les bons dosages, la bonne température,
faut pas pour qu'ils soient crémeux. C'est ça, voilà.
Il ne faut pas qu'ils filent, tout à fait.
Donc, on va en parler, les auditeurs qui ont envie de refaire des cacio e pepe ce dimanche. Eh bien, restez à l'écoute parce qu'on va vous donner le truc pour les réussir avec Denis Imbrosi. Dans Cache Investigation, Élise Lucet, vous vous intéressez aussi à notre alimentation,
oui,
un sujet qui nous concerne tous. Hein, et c'est vrai qu'entre les dérives de l'agroalimentaire et les bouleversements de notre agriculture, vous avez du pain sur la planche, là. Hein.
Oui, on a fait des super enquêtes. On a fait une enquête sur le sel de nitrite dans le jambon, signée Sandrine Rigaud. On a fait une super enquête sur la pêche, signée Sophie Le Gall. On a fait une super enquête sur les semences, l'industrialisation des semences et donc, du coup, l'industrialisation des fruits et légumes derrière, hein, bien sûr, Linda Bendali. On s'attache vraiment beaucoup à ça parce que, franchement, si on veut bien manger aujourd'hui, il faut d'abord être bien informé, en fait. C'est la règle numéro un.
Et je me souviens du reportage du Cache Investigation sur la charcuterie qui a eu des effets sur la charcuterie industrielle ensuite.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je me souviens avoir interviewé le patron d'Erta à l'époque, qui me disait, enfin, c'est pas possible, on ne peut pas faire de jambon sans sel de nitrite, pas de charcuterie, vous ne rendez pas compte, on va tous attraper, j'ai oublié le nom de cette maladie.
Le botulisme.
Voilà, exactement, le botulisme. Et donc, et en fait, des cas de botulisme en France en 2020, bon, on devait être en 2018 ou 2019, il y en a très très peu. Donc c'était peut-être effectivement possible il y a 60 ou 70 ans, mais aujourd'hui c'est un argument qui ne tient plus.
Oui, la société très hygiéniste justement qu'on met
exactement
en avant.
Exactement, on fait cette émission et il nous tient vraiment le truc en nous disant jamais de la vie, on ne fera ça en France, etc. Ce qu'on a su, c'est que derrière, les ventes de jambon ont tellement chuté de manière spectaculaire qu'ils ont investi la même société, Erta, 25 millions d'euros dans un site de production de charcuterie sans sel de nitrite. Donc
voilà,
c'était possible.
Comme quoi, quand on veut, on peut. Alors, je vais vous faire.
Et vous voyez ça dans vos rayons maintenant.
Je vais vous faire écouter un extrait qui va vous rappeler des souvenirs. Pour qu'on comprenne bien, on parle de la surpêche du thon. C'était dans, oui, Cache Investigation. Vous parlez à l'un des grands représentants des thoniers français il est question de DCP. Alors en gros, le DCP, c'est un filet qui permet de prélever des centaines de tonnes de poissons.
Alors c'est pas tout à fait ça. Le DCP, c'est une sorte de carré immense, un peu grand comme la table là, qui fait de l'ombre, et les poissons sont grégaires, ils vont se mettre à l'ombre et ils vont se mettre sous les DCP. Et c'est des sortes de trucs dérivants qui se baladent partout, notamment dans l'océan Indien pour les thons albacore. Et donc il y en a énormément. Et au fur et à mesure, pour pêcher de plus en plus de poissons, ils mettent des DCP partout dans la mer pour attirer les poissons sous l'ombre des DCP et ensuite les ramasser avec un énorme filet. Le problème, c'est que les DCP, ils dérivent, ils se dégradent, il y en a partout, mais il y en a des milliers, peut-être même des centaines de milliers maintenant, dans l'océan Indien.
Et bien alors, on va écouter tiens, la séquence où vous lui faites prendre conscience qu'il y a trop de DCP.
Il y a trop de DCP utilisés.
Mais vous dites pas plus que ça, il y a trop de DCP utilisés, c'est un peu court, puisque vous représentez la filière, vous représentez les thoniers français.
C'est pas si court que ça. Nous, on s'est auto-limité, c'est-à-dire qu'actuellement...
Bah, la preuve que non. Non mais pardonnez-moi, hein, vous dites oui, on s'est auto-limité, etc. Moi, quand je vois le chiffre et qu'on passe de 47% de capture à 72% de capture entre 2005 et 2016, l'auto-limitation, elle est mineure, pour le coup.
Et voilà, donc quelqu'un de bien renseigné qui leur pousse dans ces retranchements. C'est vrai que parfois, on vous entend confronter les responsables aux réalités. On a presque parfois de l'empathie pour eux en se disant
Ça devient des petits garçons.
Voilà. C'est ça.
C'est pas le but, encore une fois. Le but, c'est d'obtenir vraiment la vérité pour les téléspectateurs qui nous regardent. Par exemple, ce qui était intéressant sur le reportage et l'enquête de Sophie Le Gall, c'est qu'elle avait réussi un truc de dingue. Hein. Blonde, jeune femme, française, elle était montée sur un thonier. Bretonne, Le Gall, comme son nom l'indique. Et elle était montée sur le thonier en faisant un peu sa courge, quoi. Genre, oh, mais mon Dieu, c'était très intéressant ce que vous faites. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, sur le tapis où on voit toutes les prises de thon, qu'il n'y a quasiment que des juvéniles. Des juvéniles, c'est des thons qui ne se sont pas reproduits. Si on capture les juvéniles, ça veut dire que la ressource est en train d'être épuisée par les pêcheurs. Et ils sont en train de mesurer les thons. Ils ont tous moins de 2 ans. Ils sont tous juvéniles. Ils sont en train de tuer l'espèce.
Donc, il faut les remettre à l'eau.
Ben évidemment, il ne faut pas les pêcher. C'est impossible. C'est interdit de pêcher du thon juvénile. Parce que vous attaquez à la reproduction de l'espèce. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est là-dessus qu'il faut aller. Et c'est la force du reportage, la force de l'enquête, et notamment de tous les enquêteurs de cachet. Et les journalistes qui font un an d'enquête sur un dossier. C'est du boulot, du boulot, du boulot. Parce que moi, je suis la tête de gondole, mais derrière, il y a une vraie équipe qui bosse. Mais ils travaillent comme des malades.
Élise Lucet, journaliste intransigeante avec nous jusqu'à midi et demi. Eh bien, c'est l'heure d'accueillir maintenant un autre journaliste. Il s'est longtemps présenté comme un journaliste professionnel. Il a trompé son monde hein, avec ses interviews devenues cultes. Maintenant, entre ses spectacles et les émissions de télé qu'il produit et qu'il présente sur C8, sur Canal+, il cultive le décalage. C'est Raphaël Mesrahi qui est des nôtres. Bonjour Raphaël Mesrahi.
Merci Maguire. Ah Élise, comment ça va ?
Bonjour Raphaël, ça va ?
Oui, oui, bien.
Installez-vous Raphaël Mesrahi. Je vous présente Hugues Delatte. Hein.
Oui.
Vous en avez connu des journalistes comme lui ?
Non mais c'est juste incroyable. Quoi. C'est juste formidable. Moi j'ai des souvenirs cultes de lui face à Guy Marchand, face à Castaldi, face à Inès de la Fressange.
Ah elle est gentille.
Oui, parce qu'elle, elle était mais morte de rire. Ah, ouais. Parce que... Elle se disait, c'est quoi cet ovni qui est en face de moi ? C'était incroyable.
Et là, j'entoure des nouvelles en ce moment. Donc c'est...
Ah bon, super. Oui,
avec des stars internationales.
Internationales et puis des jeunes, parce que les gens me disent, ouais, mais les gens vous connaissent. Mais j'ai dit, mais posez la question à vos enfants, petits-enfants ou voisins de moins de 25 ans. À mon avis, il y en a un sur quatre qui me connaît, pas plus. Quoi.
Oui,
on se souvient de vos interviews récentes avec Nabila, qui est devenue culte déjà.
Oui, oui.
Je n'ai pas vu celle-ci, je vais regarder.
Oui, c'était bien. Ça fait des millions de vues, donc c'est assez étonnant. Donc c'est un monde qu'on ne connaît pas. Je suis passé d'un seul coup du. Voilà, des années 70, je suis toujours des années 70 d'ailleurs, aux années que je ne maîtrise pas du tout. Donc je ne sais même pas de quoi on parle.
Alors vous êtes venu aussi pour nous parler de la Nuit de la Déprime. C'est une soirée culte qui va avoir lieu le 29 novembre au Folies Bergère.
Et cette année, ça s'appelle l'année de la Déprime.
L'année de la Déprime, oui, carrément, bah oui. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu en 2020, on pouvait lui faire une année.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à table autour d'Élise Lucet. Raphaël Mesrahi nous a rejoint. Au fourneau, Denis Imbroisi, un bel ambassadeur de la cuisine italienne dans la capitale avec ses restaurants Ida, Malraux et Poca dans le 7e arrondissement. Et regardez, alors là, vous pouvez voir ça sur europe1.fr.
Incroyable.europe1.fr.
Le geste de Denis Imbroisi qui nous enrobe avec cette belle sauce, des pâtes fraîches, cacio et pépé. Alors le truc pour réussir cette sauce comme il faut à la maison.
Un soupçon d'amour.
Ouais, mais c'est ça... pas pour moi alors.
Un soupçon d'amour. Alors il faut, c'est la température. Hein. Toujours sur la température.
De l'eau de cuisson.
De l'eau de cuisson. J'utilise que de l'eau de cuisson parce qu'en plus elle est riche en amidon. Donc ça permet vraiment d'avoir
la liaison,
cette crémosité. Et là on le voit, on a dans la poêle, on le voit, c'est presque une crème anglaise. Donc c'est pas tranché, c'est pas filon, c'est vraiment une sauce qui est onctueuse, homogène et riche en poivre bien sûr.
Le poivre qui a été un petit peu torréfié dans une poêle et l'eau de cuisson par-dessus.
Quand je commence, oui. Formidable. Les poivres écrasés dans la poêle. Écrasés parce que si on met du poivre moulu, ça se brûle. Donc on a cette amertume qui ressort après derrière. Il faut faire un petit peu attention. Croisé au pilon. Et après, je finis toujours avec du poivre moulu dessus.
Ça vous parle, Raphaël Mesraï, vous, l'amoureux de l'Italie et des pâtes?
Je crois que je n'aime que ça, d'ailleurs.
Et autre astuce, il faut que ce soit toujours bien crémeux et bien beveux.
Incroyable.
C'est comme ça que les pâtes sont gourmandes. Donc moi, j'y râpe toujours un petit peu des pecorino ou des grana padano dessus.
C'est génial, une des meilleures missions de radio de l'année.
Et c'est végétarien, ce qui va plaire à Raphaël Mesraï, parce que vous n'êtes pas venu les mains vides, Raphaël. Qu'est-ce que vous avez apporté?
Je vous ai apporté du champagne, là, c'est la dernière cuvée, parce qu'il y a 4 ans pour rire, j'ai fait du champagne, mais parce que je suis allé, parce que les mecs voulaient faire des photos avec moi, je suis d'accord, mais
avec Thomas Churlin
de Celles-sur-Ourse, la Côte des Bars, formidable. Et je dis, mais d'accord, je veux bien faire une photo, mais à condition que tu viennes offrir le champagne à tous mes spectateurs tous les jours. Avant, c'était avant le Covid, quand il y avait beaucoup de public. Et il me dit, d'accord. Alors donc, mais viens au pressoir. Donc j'y suis allé. Et qu'est-ce que je vois? Comme il n'y a pas de pesticides, il y a des pucerons. Pour bouffer les pucerons, on injecte des coccinelles, la biodiversité, les pinces-oreilles, tout ça qui a une becquetée. Et à la fin, le problème, c'est que toutes ces petites bêtes-là se retrouvent dans le pressoir écrasées. Et moi, je dis, stop, on arrête là. Non, moi, je sauve les bêtes. Hein. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, faut tout sauver, une par une. Donc ils m'ont pris pour un cinglé, ce qui était rassurant. Et donc, il me dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, il faut tout trier. Donc, je suis parti dans un délire. J'ai dit, file-moi 10% des terrains que tu as avec tes frères et sœurs et je fais ce que je veux. Il me dit, OK, donc je signe un contrat, je prends 10%, je fais ce que je veux. Et donc, on trie toutes les bêtes. Et j'ai dit, oui, mais le filtrage est comment? Donc, on filtre à base de petits pois. Donc, je dis, on est végétal du début à la fin de la chaîne, sortons le premier champagne vegan.
Voilà, parce que la clarification du champagne se faisait avec des gommes de poisson autrefois.
Oui, ou gélatine de porc, maintenant. Voilà. Pas tous. Hein,
non, mais ça se fait encore.
Mais ça se fait encore. Et moi, je dis, allez, faisons végétal du début à la fin, allons-y. Et un an après, la revue du vin de France m'a goûté ce champagne les yeux bandés. Ils m'ont dit, voilà, on t'a mis la note de 15 sur 20. Mmh. Et donc, je suis dans le top des meilleurs champagnes.
Et avec les 4 chiots et pépés de Denis Abreuvy, c'est un accord.
Mais alors, moi, je veux savoir comment on fait pour trier les coccinelles,
Il y a une machine à tri, c'est-à-dire que dès que les gars sortent des vendanges, ils balancent tout. Il y a des trieuses qui vibrent. Et tout tombe dans un tiroir et on refoule la biodiversité dehors. Quoi.
Et alors, elles doivent penser que c'est une boîte de nuit, les coccinelles.
Oui, c'est ça. Ouais.
Elles descendent du raisin, elles sont là, genre bou, 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 et c'est génial.
Et pareil, c'était pour rire, cette bouteille. Alors, on va voir si elle est drôle, il faut l'ouvrir.
Bah oui, on va l'ouvrir.
Moi, tout est pour rire, un pour rien, est sérieux.
Élise Lucet, tiens.
Raphaël Mesraï a inventé la première boîte de nuit pour coccinelles et 1000 pattes.
C'est ça qu'il fallait retenir, exactement.
Élise Lucet, entre les sujets difficiles et les tragédies du monde, c'est vrai que le rire est essentiel. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie?
Oh, plein de choses. L'autodérision, beaucoup. Je trouve ça génial, les gens qui ont de l'autodérision. Ça me fait marrer. Mais je suis capable de rire à une blague de potache. Je suis capable de rire à... ma fille me fait des blagues régulièrement. Et ouais, c'est super important. Enfin, pour moi, c'est un carburant autant que la bonne nourriture que Denis nous a faite et que je viens de goûter. C'est juste super bon.
Merci, Denis
Ambroisi. Mais ça fait trop bien. Mais rire, c'est... Ouf,
c'est comme respirer. Et vous, Raphaël Mesraï, quand on vous demande qui vous fait rire, alors vous citez souvent Jean Carmé, Darry Cole, Groucho Marx, que des morts.
Pierre Desproges.
Coluche. Il n'y a pas des vivants qui vous font marrer?
Pas encore, bientôt je dirai ça, mais...
Non, c'est pas vrai, parce que je vous connais.
Mais
vous
non,
vous avez produit Arnaud Samer et Jérémy
Ferrari. Vous écoutez Paul Mirabel, il est super aussi dans Les Petits Jeunes, il est vachement bien.
Mais il y en a plein, mais franchement, je déconne toujours. L'autre jour, j'ai fait un papier, j'ai dit, je déteste les humoristes. Il m'a dit, oui, pourquoi tu dis des choses comme ça? Enfin bon,
c'est de l'humour. Alors,
évidemment, c'est pas très grave.
À propos d'humour et de référence, vous venez nous voir avec un livre consacré à Francis Blanche.
Oui.
Vous avez écrit la préface de ce livre avec des dessins de Cabu, Les pensées d'un tonton flingueur aux éditions du Cherche Midi. Francis Blanche, quand même, qui était un bonhomme qui cultivait l'art de la dérision.
Parce que cet humour-là, je crois, n'existe plus. Moi, j'ai démarré comme ça. La première caméra cachée que je voulais faire. Déjà, le nombre de fois, j'allais voir les gens de télé et de radio. Ils me reçoivent, ils m'offrent un café. C'est-à-dire, Georges Clooney à côté de moi, c'est une plaisanterie, tellement j'ai bu de café. Et à la fin, ils me font comment. Voilà, et ça s'arrête là, je ne fais plus jamais, je vais jamais la rajouter. On vous rappellera mardi à 16h, enfin des conneries comme ça. Et la première fois, je dis, ben voilà, je voudrais attacher une corde à la tour Montparnasse. Et je me balade avec la... J'ai la corde en bas et je chope les gens dans la rue. Je dis, pardon, vous pouvez même surveiller la tour, parce qu'il faut que j'aille aux toilettes.
Et les gens. Mais voilà, font... ça fait voilà. Rire.
Et ça, c'est oui. Du Francis Blanche.
Moi, et c'est j'adore. Francis Blanche. Et moi, quand on m'appelle pour me dire, tiens, bah, on s'est réunis avec la famille, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire la préface. J'ai dit, attendez, c'est beaucoup trop d'honneur. Est-ce que vous pouvez faire la préface du livre de Francis Blanche? J'ai dit, bah, allons-y gaiement. Donc, j'ai fait la préface, je ne me suis pas trop foulé, j'ai fait la conversation téléphonique que j'ai eue avec le gars. Et donc, c'était avec ça l'éditeur. La préface avec l'éditeur.
Mais ce qui est génial, c'est que Francis Blanche, par exemple, s'est marié avec une amie noire uniquement pour qu'elle s'appelle Madame Blanche.
Ah, mais
par
oui,
exemple.
Puis par exemple, il avait acheté un petit studio, ou loué un petit studio dans Paris, mais qui faisait la taille d'un lit. Donc, dès que la fille arrivait, elle était dans le lit tout de suite. C'était. Mais tout est et puis l'histoire des voitures. Il avait une voiture américaine et une il y avait une deux chevaux, une 4L devant et derrière. Il s'est amusé à défoncer, faire marche arrière, marche avant, marche arrière, et tout défoncer. Tous les gens arrivent, mais c'est une honte. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'avez pas honte, vous le gros Richard en train de péter les bagnoles? Il dit que ça peut vous foutre, les trois sont à moi.
Il avait fait exprès d'acheter des voitures, c'est ça. Il allait vraiment jusqu'au bout de la vanne.
C'est un héritier des surréalistes.
Hein. Ah ben bah oui.
Et non seulement en plus, peut-être aussi cet humour-là a un peu disparu parce qu'ils ont une qualité d'écriture. Dans les mots, et c'est vrai que parfois quand tu écoutes à nouveau leur sketch, je pense qu'il y a certaines personnes, voire une certaine génération qui ne comprend plus. Parce qu'il y a une richesse de syntaxe sur les jeux de mots, puis qui fait les que les gens références. Ne comprennent pas.
C'est sûr, c'est
aujourd'hui, sûr. Aujourd'hui, il est plus dans l'action, c'est et donc les gens... C'est un langage,
bien sûr. Les pensées d'un tonton flingueur aux éditions du Cherche Midi, dessin de Cabu et préface de Raphaël Mesrahi. On se régale, Denis Imbrosi. C'est vrai que la sauce fait toute la différence, Denis Imbrosi, parce qu'il y a une onctuosité, elle enrobe les pâtes fraîches comme il faut, le poivre est bien équilibré.
Incroyable.
Donc on le redit, on a utilisé quel fromage dans cette sauce?
On a utilisé pecorino et Grana Padano.
Voilà, donc un mélange des deux.
Un mélange des deux.
Et le petit zeste de citron dessus.
Oui,
là.
Ah ben ça, ah. C'est, ça mène cette fraîcheur. Ça, c'est la touche personnelle. Normalement, dans la vraie recette, c'est du pecorino romano pur. Et c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort en bouche.
Non, mais c'est très talentueux. J'essaye incroyable.
D'équilibrer.
Non, mais c'est toute la force de Denis et de la cuisine italienne, c'est que quand on raconte la recette, elle est simple.
Oui.
C'est même une évidence. Tout le monde se dit, oui, bon, d'accord, je vais y arriver. Et quand tu la goûtes, tu vois que c'est un métier. Tu vois qu'il y a un geste, un génie, un art de la cuisson. Et que voilà, il n'y a rien de plus dur que les évidences en cuisine.
Tout, tu donnes un appareil photo, tu dis tiens, on va photographier un gosse dans le berceau. Il y a un mec, ça va être un chef-d'œuvre, et l'autre, ça va être une photo floue. Pour lui,
ce midi, grâce à vous, Denis Imbrosi, nous sommes gays comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour
et
du vin. C'est de qui ça?
Nicole Croisi.
Bien,
wow. Ouais, bravo. Je suis très soulagé. Wow.
Non, parce que je voulais emmener Raphaël Mesrahi sur ce terrain-là, parce que l'année de la déprime qui aura lieu le 29 novembre au Folies Bergères à Paris, c'est ça le concept. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez,
mais
c'est d'inviter des chanteurs qui vont chanter leurs chansons les plus tristes.
Ah, oui.
Et on a vraiment les meilleurs. C'est-à-dire de plus
et quel
en plus.
Casting?
Non, c'est des castings très, 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 très haut de gamme. Il y a Tom Leleux qui est tuba dans l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Il y a Yvan Cassard. Il y a je sais pas, Romain Leleux. Alexandre Tarot, qui est un des plus grands pianistes concertistes de la planète.
J'ai reçu plein de
fois.
Qui vient chanter cette année?
Alors, cette année, il y a Nolwenn Leroy qui viendra chanter, parce que Nolwenn, c'est la première marraine. Donc, elle est géniale, Nolwenn, toujours fidèle. Thomas Dutron sera le parrain, parce que c'est mon petit frère, Thomas. Je le connais d'une vie. Et il comprend tout, il est intelligent.
Non, mais il est intelligent. Il est drôle. Il
sera bientôt à cette table.
Il est presque chiant, hein, parce que
qualité.
Autant de qualité dans une seule personne, ça fait quand même beaucoup.
Il est vraiment marrant. Il y a Barbara Pravi, par exemple. Il y a Nicoletta. Il y a Sheila.
Il y a le fils de Joe Dassin qui performance.
Et si tu n'existais pas, parce que c'est le sosie vocal et physique de son père. Il a jamais chanté Si tu n'existais pas en public. C'est la première fois et ça sera là et c'est assez bluffant, vraiment. Quoi.
Le 29 novembre aux Folies Bergères.
Son père, Joe Dassin, était précurseur parce qu'on va passer un jingle d'une de ses chansons qui il chantait « À Paris, à vélo, on dépasse les autos. »
Une belle chanson d'anticipation.
Je suis pas sûr qu'on va énormément déprimer à la nuit de la déprime.
Mais non,
moi,
déprime
ça m'a
jamais.
L'air d'être
je vais faire un FaceTime avec les Balkany aussi parce qu'ils ne peuvent pas venir.
Ah oui. Ah non, alors ça, c'est incroyable parce
mais
que
tout est vrai.
Année,
tout est vrai.
Vous raccrochez l'actualité dans l'année dans la nuit de la déprime et l'année de la déprime.
Et les gens disent non, c'est pas possible. Mais si, parce que c'est. C'est un pied de nez à toute cette merde ambiante depuis des années. Par exemple, les quatre premiers rangs, je les vire et je mets des lits parce que les spectateurs ont regardé les spectacles les deux dernières années allongés dans leur lit. Je dis, bon, on ne va pas trop les bousculer, donc on amène des lits au théâtre. Et donc, il y aura des lits doubles à gauche pour les couples qui ont résisté au confinement et des lits simples à droite pour les nouveaux divorcés.
Europe 1, la table du dimanche.
Laurent Mariotte.
C'est très difficile. Alors, c'est ça, en plus, la cuisine italienne.
Ah oui,
machin pour ça. Du coup, ton fromage, parce que tu prends ton eau de cuisson.
Oui, alors le fromage, tu le râpes déjà. Tu prends un fromage, tu peux le faire avec n'importe quel fromage, l'important que ce soit un fromage à pâte dure.
Bien sûr. Voilà.
Et tu le râpes, tu prends l'eau de cuisson des pâtes. L'eau de cuisson des pâtes, elle bout à 100 degrés. Ouais. Il faut que tu la laisses refroidir au moins à 70 degrés. Ça, c'est important.
Okay.
Et ensuite, tu fais le mélange entre le fromage, tu le mixes. Moi, je le mixe, ça fait
bien
plus.
Sûr, sûr,
en plus lisse. Ma maman, elle ne le mixe pas. Elle mélange directement dans la poêle. Je le fais pour avoir une qualité, une sauce un peu plus crémeuse, mais tu peux faire juste en mélangeant les pâtes.
Eh bien, voilà, chers auditeurs, vous avez la recette livrée.
Ah oui, carrément.
À Élise Lucet.
Je suis en train de faire de l'investigation.
Mais oui, mais c'est bien. Mais
nous aussi. On a des micros cachés.
Et voilà, comme ça, les auditeurs ont.
Grillé, on est grillé là.
La recette pour réussir, c'est pâtes cacio et pépé, la recette de Denis Imbrosi, un bel ambassadeur de la cuisine italienne dans la capitale, avec un très beau livre. Je rappelle le titre du très beau livre de Denis Imbrosi, Une table au soleil, manger en Méditerranée. Voilà, ça fait du bien au mois de novembre. Raphaël Mesrahi nous a rejoint. C'est la table du dimanche d'Élise Lucet. Donc, 29 novembre, hein, vous avez pris date pour aller à l'année de la déprime.
Carrément, oui. Et puis, je vais aller chez Denis avant, je pense.
C'est ça. Comment ça vous est venue, cette idée de la nuit de la déprime
pour de vrai,
au départ?
Pour de vrai,
oui, pour de vrai, oui.
J'écoute Nicolas Perrac, une chanson, et parce que c'est un pote à moi. Et c'est la vraie chanson, mais écoutez là, ça s'appelle Marie l'inexorable.
Oh.
J'écoute ça, et dans ce coup, je pisse de rire, parce que c'est l'histoire d'un couple qui rentre à la maison avec deux gosses, et le mari monte, et il voit qu'il pleut vraiment beaucoup, donc il veut se déplacer, je sais pas quoi, et il y a une poutre qui lui tombe dessus, et reste coincé. Et il explique que l'eau monte inexorablement, et que la maison n'en a plus pour longtemps. C'est vrai, c'est les paroles. Et à la fin, bah, tout le monde meurt. Je dis, bah, c'est énorme comme
c'est
chanson.
Chouette.
Je dis, tu peux pas venir chanter la nuit de la déprime. Après, j'ai appelé Enrico Macias, j'ai quitté mon pays, Nicoletta, il est mort le soleil. Après, je me dis, bah, marrons-nous, puis faisons ça. Donc, on distribue des mouchoirs à l'entrée, et tout le monde joue le jeu. Et je donne tout aux associations pour animaux. Voilà.
C'est un défenseur de la cause animale depuis longtemps.
Et j'ai donné plus de 100 000 euros en 5 ans.
Pas mal.
Voilà, donc je suis assez content quand même. Vraiment,
pas mal.
Élise Lucet, on a tous des jours avec et des jours sans. Qu'est-ce que vous faites quand les contrariétés de la vie nous rattrapent et que
elle
vous
m'appelle.
Devez faire un cash investigation?
Il faut que je te dise un truc.
Quand vous devez faire un cash investigation ou un envoyé spécial, c'est vrai, parce que l'humeur peut parfois nous parasiter, la mauvaise humeur.
D'abord, je m'obstine. D'abord, je m'avoue jamais vaincue. Quand ça part pas comme je veux, quand l'équipe est pas contente parce qu'on n'a pas réussi un truc et tout, je m'obstine. Je lâche jamais l'affaire et mes équipes non plus. C'est pas que moi toute seule. On a un côté comme ça.
Oui, mais
on
retrouve les grands modèles qu'on a évoqués tout à l'heure au début de l'émission, Anne Sinclair, Christine Ockrent.
Oui, après, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut lâcher. Quand on lâche, on lâche. C'est-à-dire, il ne faut jamais lâcher sur les affaires sur lesquelles on est obstiné, il faut obtenir des réponses. Mais en revanche, quand on arrête de bosser, il faut arrêter de bosser. Et donc, il faut poser le téléphone.
Ah, vous arrivez, ça.
Oui, ouais. Sauf dossier très urgent à gérer, machin et tout. Là, on a le téléphone pas loin parce qu'on sait que ça peut mal tourner. Mais sinon, très franchement, quand j'arrête de bosser, j'arrête de bosser. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je pars en forêt, ramasser des champignons, je fais la cuisine, je mange du très... Je fais que des trucs normaux, en fait.
La nature, la reconnexion avec la nature aussi.
Je discute, c'est la base. J'adore marcher. Donc, je marche dans des endroits de préférence sympas, au bord de mer. Mais même en forêt, enfin, vous allez au mois d'octobre, novembre, même là, je vais aller ramasser les chanterelles au mois de décembre.
Bien sûr.
Avant le gel, il y a encore des chanterelles.
Oui, il ne faut pas qu'il y ait trop gelé, attention.
Voilà.
Hein. Voilà.
Mais avant le gel, on a les chanterelles. Et donc, même au mois de décembre, hop, je prends mes bottes et hop, j'y vais. Je mets une bonne parka et je connais la forêt comme ma poche.
Ah,
j'écoute les oiseaux, je regarde les feuilles, tac. Et on rentre, et quand on rentre avec un panier de champignons et que vous épluchez les champignons en vous disant oh.
Ah, vous avez vos coins donc.
Ah, bah tiens.
Ah, moi je les ai pas, moi.
Ah,
j'habite
mais
dans
mais
les bois.
Alors,
voilà.
Ça.
Oui, en Champagne, vous pourriez aller aux champignons, Raphaël.
J'y vais, à chaque fois, les mecs, ils disent non, c'est pas là qu'il fallait aller.
Ouais, bah, en général,
il y a 20 ans que j'habite dans les bois,
ouais,
hein, quand même.
Alors,
hein.
En général, si vous mecs... disent que c'est pas là qu'il faut aller,
oui,
c'est là qu'il faut
c'est
aller.
C'est là qu'il faut aller, c'est ça. Mais c'est des escrocs, je les adore, mes voisins.
C'est la leçon du jour. Denis Imbrosi, tiens, est-ce qu'il y a un plat qui vous réconforte quand vous avez un coup de blues? On a parlé des carbonara tout à l'heure, des cacio e pepe. C'est quoi votre bol secret?
La parmigiana di melanzane. Ça, c'est
bon, ça.
La parmesan d'aubergine.
Ah,
c'est tellement réconfortant.
Un gratin d'aubergine avec du parmesan.
Eh bien, évidemment.
Et
avec
de la
mozzarella,
et
de la sauce tomate confite. Donc, c'est vraiment le plat réconfortant à partager au milieu de la table avec ses amis au pas.
C'est génial.
Non, ça, c'est bon.
Voilà,
c'est...
Alors, pour éviter la déprime, lui, il court les restaurants et les cafés, Manuel Rubin. Vous allez justement nous parler de cet endroit essentiel, le café, parce que qu'est-ce qui se passe? On y va moins au café? Ils sont en train de changer, nos cafés?
C'est surtout qu'ils redeviennent... Alors, je ne sais pas si c'est suite à la séquence Covid ou pour la première fois de leur histoire, finalement, ils ont vécu rideau baissé, et même qualifié de bien non essentiel. Moi, je pense que c'est surtout un bien très existentiel, le café. Parce qu'avant d'être un lieu où l'on vient se nourrir et lever le coude ou lever la tasse, c'est aussi un lieu éminemment de sociabilité. Alors, on va peut-être d'abord rappeler rapidement son histoire, parce qu'elle est intéressante, parce que finalement... C'est une histoire entre le Sud et le Nord, entre l'Orient et l'Occident. Le café, il naît du côté du Moyen-Orient en même temps que le breuvage. Donc, dès que le breuvage est installé, il y a des lieux comme ça qui servent le café. Donc, ça devient évidemment un lieu de sociabilité. Il atteint son essor au XVIe siècle et c'est à partir de là qu'il va conquérir la vieille Europe, qui à l'époque la jeune Europe, celle des hautes nations, des royautés. Le premier, dit-on, il s'installe en 1522 à Belgrade. Puis après, ce sera l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. En France, pas avant le XVIIe siècle, avec Marseille, Lyon, puis Paris. Et c'est vrai que Paris, au XVIIIe siècle, va donner au café ses lettres de noblesse, puisque le siècle des Lumières n'aurait pas été ce qu'il était sans ces cafés, qui étaient des lieux d'expression. Et tous les grands philosophes des Lumières, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, allait au café. D'ailleurs, il y a un café qui existe encore à Paris qui en est le témoin. C'est le café Procope. On est en plein cœur du quartier.
Le plus vieux café de Paris. Mais c'est vrai que le 19e et le 20e siècle sont les siècles qui ont donné naissance au café tel qu'on les connaît aujourd'hui.
Exactement. C'est l'âge d'or du café. D'ailleurs, Balzac dira le comptoir du café, le parlement du peuple. Alors, c'est vrai et pas vrai à la fois. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de café dans les villes. Et il y a le café chic ou mondain, et puis il y a le café du quotidien, le café du quartier. Et ceux-là, ils sont en perte de vitesse depuis pas mal d'années. Alors, je ne parle même pas, mais on va y revenir, du côté de nos campagnes où ils disparaissent les uns après les autres. Simplement, depuis cette rentrée, pourquoi, comment aller savoir? Eh bien, il y a un retour, un sursaut du café. Ça se passe du côté des chefs, avec un jeune chef qui s'appelle Charles Compagnon. C'est un ancien de l'école hôtelière Médéric à Paris. Il a d'abord commencé en ouvrant des cafés comme cela, améliorés dans le 9e. Il vient d'en ouvrir un à Montorgueil qui s'appelle le Café Compagnon. Alors lui, son idée, c'est de remettre un peu de la saveur dans l'assiette, du niveau dans les verres. Mais il reste un vrai café. C'est-à-dire que ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir. Et c'est ça l'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment y entrer pour boire un seul verre, un petit noir.
Et manger un croque-monsieur à 16 heures.
Exactement. Simplement, lui, dans sa cuisine, ça se pousse un peu du col. On est presque aux frontières de la bistronomie.
Mais alors justement, on arrive toujours vers la bistronomie quand on réinvente les cafés. Est-ce qu'on ne peut pas réinventer vraiment le café avec le vrai croque-monsieur, avec le vrai œuf maillot et les œufs durs encore sur le zinc?
Avec Jean Gabin.
C'est interdit, les œufs durs sur le zinc.
Oui, les œufs durs,
moi, je veux faire une manif. Hein.
Oui, c'est vrai.
Je veux les œufs durs sur le zinc.
On a envie de ça.
Mais moi, je pense que justement, Cyril Lignac vient d'en ouvrir le café Lignac. On est dans le 7e arrondissement.
C'est un café chic. Hein.
Oui, c'est un café chic.
Mais il y a toujours le zinc.
C'est encore important. Ce qui est important, c'est l'ouvert à tout. C'est-à-dire ouvert du matin au soir. Ça, c'est pas le cas d'un bistrot, c'est pas le cas d'un restaurant. Et donc, vous pouvez vraiment arriver, et c'est très générationnel, très œcuménique dans les âges. Et au café Lignac, finalement, le matin à 8h, vous arrivez, vous prenez votre tasse à café et puis vous pouvez manger à toute heure. Et puis, finalement, à sa carte, il est un éloge de la bistrotte, mais aussi un éloge du café, puisque tu as le radis beurre et tout un tas beaucoup plus de produits beaucoup plus simples. Et puis, du côté de la province, là, je veux saluer vraiment une initiative. J'allais même dire du côté de la campagne. Ça s'appelle l'association 1000 cafés.
Ils se sont fixés
comme objectif d'ouvrir 1000 cafés dans des villages qui n'avaient plus ce lieu, qui est un lieu au-delà du café.
Le ils ont presque réussi. Pays,
le bistrot de pays. Pour moi, je trouve ça génial. C'est formidable ce qu'ils sont en train de faire. Hein, mais vraiment, c'est
exactement.
Si vous avez un café dans le village, le village n'est pas mort. C'est comme l'école. C'est aussi important que l'école. Il faut un café, il faut une école. Mais c'est pas possible de laisser les cafés mourir les uns. Après les autres,
l'association fait
leur redonner vie.
Entre lieu de vie. Les mairies qui sont en attente et puis des gens qui ont envie un peu parfois de se réenchanter. Ils les aident, ils les accompagnent au niveau administratif, au niveau budgétaire. Et c'est vrai qu'ils ont presque réussi leur pari. Ouais. Ils avaient fixé 1000 cafés pour la fin de l'année. Très sincèrement, si en mars, ils atteignent leur chiffre, on s'en fout. L'important, c'est qu'ils créent cette dynamique.
Et les maires des petits villages s'investissent beaucoup là-dedans. Ils leur donnent des locaux gratuits.
Faut les aider.
Souvent, ils font bistrot, la petite épicerie, un peu la poste, tout ça.
C'est ça.
Mais hop, ça redonne vie au village. Mais c'est super.
Exactement, c'est un lieu de vie. Ça fait d'air, justement.
L'expression, c'était souvent consacrée, c'était de remettre l'église au milieu du village. Elle est un peu fatigante d'avoir trop servi. Cette expression, on va plutôt dire remettre le café au milieu du village.
Eh ben, on est preneur, absolument. Merci Emmanuel Rubin. Bientôt l'heure de se quitter, les amis, mais on va pas se quitter. Ben oui, ça passe vite. Sans vos coups de cœur, ça peut être un livre, un spectacle, un restaurant. Élise Lucet.
Collection Morozov, moi j'adore les tableaux, j'adore la peinture, et donc la collection Morozov, c'est deux frangins russes, famille un peu cinglée, qui en fait se prennent d'amour pour les peintres français notamment, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi du Picasso, il y a du Matisse, il y a du Van Gogh, il y a des choses russes aussi, moi que je connaissais pas du tout. C'est incroyable, mais vraiment, c'est une collection de dingue.
Et on la voit
et alors, on la voit à la Fondation Louis Vuitton. Et ce qui est complètement fou, c'est par exemple, vous voyez, les deux frères ont acheté une peinture qui est un portrait d'une jeune parisienne. Il y en a un qui, je crois que le portrait date de 1906, l'autre de 1907. Et donc, ils faisaient une compète entre eux. Et ils disaient, non, mais moi, je l'ai fait, cette peinture, je l'ai fait réaliser par telle peintre, toi, par telle peintre. Mais regarde, le mien est mieux que le tien, etc. Mais c'est trop drôle.
Ah,
c'est incroyable. Il faut lire l'histoire de la collection Morozov avant d'aller la voir.
Fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne. Raphaël Mesrahi, votre coup de cœur.
Lire le livre de Bernard Werber, par exemple. Parce que,
sur les abeilles.
Sur les abeilles, parce que c'est un vieux copain que j'ai connu avant qu'il écrive Les Fourmis. Donc, il avait plein de cheveux à l'époque. Et donc, j'adore, c'est un vrai poète.
Denis Ambroisi.
Lumière en scène. Ça a commencé avant-hier au domaine des Saint-Cloud. Organisé par Mathilde Dewil et jusqu'au 9 janvier, on peut aller voir ces spectacles de lumière. Je pense que même dans quelques semaines, même sous Noël, je pense que ça peut être hyper intéressant.
Toujours éclairé. Emmanuel Rubin, un coup de cœur pour terminer.
On part dans le Perche, dans l'Orne, un petit village avec un chef qui était étoilé parisien. Il s'appelle Sven Chartier, son restaurant s'appelait Saturne.
Oui.
Il était l'un des ténors de la bistronomie. Son restaurant vient d'ouvrir, ça s'appelle Oiseau Oiseau, et on retrouve toute cette veine bistronomique très portée sur le naturel, sur les villages, dans le Perche. Le petit village. Oh, oups.
Vous n'avez plus le petit village.
Très haut. Très haut.
Ça m'est revenu. On a eu du bol. Merci.
Voilà. C'est tellement petit village. Le restaurant Oiseau Oiseau.
Merci.
Ouatou Ouatou, mais en Oiseau Oiseau.
Voilà, ça lui fera plaisir.
Merci Emmanuel Rubin. Merci Élise Lucet.
Merci à vous. Vous rigolez, j'ai passé un super dimanche. Moment.
On était ravis de vous recevoir.
Moi aussi.
Merci Raphaël Mesrahi.
Merci, c'était le plus beau jour de ma vie.
Je rappelle donc l'année de la déprime. Le 29 novembre au Folies Bergères. Il reste encore quelques places.
Oui, oui, oui.
Plus beaucoup, mais allez-y. Et la billetterie est reversée pour la cause animale.
Exact.
Je vous offre une table au soleil mangée en Méditerranée de Denis Ambroisi. C'est pour vous, Élise Lucet.
Avec grand plaisir.
Merci de nous avoir régalé.
Grazie mille a voi, ragazzi. Buona domenica.
Voilà, ça tout de suite au mois de novembre.
On
a envie d'être en Italie.
D'habiter chez vous, presque.
Malraux, Ida et Epoca sont vos restaurants à Paris. Merci, Denis Ambroisi. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. David Ordonneau à la rédaction en chef. Claire Dutron à la programmation et à la rédaction. Julien Amat à la production. Olivier et Laurent à la technique. Loïc Vimard à la réalisation. Bon week-end sur Europe 1.
Alors, c'est super. Pâte, hein.
C'est pâte, exceptionnel.
Merci à toi, Denis.
Merci. Avec grand plaisir.
Grande régalade. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. C'est fort. C'est Denis Ambroisi.
Exagérez pas, s'il vous plaît. Ouais.